France Info.
France Info.
Un monde d'infos à la découverte ce soir de Porto Alegre, l'une des villes hautes du mondial, qui est surtout la capitale des gauchos, les gardiens de troupeaux traditionnels. D'un mondial à l'autre, direction ensuite le Qatar, 8 ans avant une Coupe du Monde controversée, le pays tente et teste en ce moment la climatisation en plein air. Et puis nous irons en Chine, où la minorité musulmane a bien du mal à pratiquer le ramadan, l'un des temps forts de l'islam. Mais d'abord, cette nouvelle affaire qui risque bien de brouiller un peu plus les relations entre Berlin et Washington. Un agent des services américains se serait infiltré au sein du BND, les services de renseignement fédéraux allemands. Ça suscite la colère de Berlin, une affaire qualifiée de grave par la chancelière Angela Merkel. Nathalie Versieux à Berlin.
L'affaire ne va pas améliorer les relations germano-américaines déjà compliquées par le scandale des écoutes de la NSA. Mercredi dernier, un agent secret allemand de 31 ans a été arrêté, convaincu d'avoir livré au cours des deux dernières années 200 à 300 documents hautement confidentiels aux États-Unis à l'aide d'une clé USB. Les documents transmis concerneraient jusqu'à la commission d'enquête allemande sur les scandales NSA et auraient permis à l'agent double de gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros. À Berlin, l'affaire irrite profondément. Dans les cercles du gouvernement, on parle même d'une nouvelle dimension dans le scandale d'espionnage par les États-Unis de leur allié germanique. Le fait que Berlin ait convoqué l'ambassadeur américain le 4 juillet, jour de la fête nationale, montre à quel point l'Allemagne est irritée par cette nouvelle affaire. Berlin, Nathalie Versieux pour France Info.
Porto Alegre au Brésil maintenant, ville qui, il y a une semaine tout juste, accueillait son dernier match de Coupe du Monde. Porto Alegre, c'est le lieu aussi où se donnaient rendez-vous les altermondialistes pendant le Forum Social Mondial. Et puis, c'est surtout une ville à l'opposé de tous les clichés brésiliens. Ici, pas de samba, on vénère le bétail et la tradition des gauchos, les habitants dont les ancêtres étaient gardiens de troupeaux. Reportage pour France Info, Élodie Touchard.
À quelques pas des immeubles modernes de Porto Alegre, au milieu d'un parking en terre, se dresse une grande étable en bois. À l'intérieur, des hommes en costume de cow-boy et des femmes en robe style western virevoltent au rythme des musiques traditionnelles. Comme une plongée dans un monde révolu, nous sommes dans l'un des 65 centres de tradition gaucha de la ville. Il y en a plus de 1500 dans l'État et des dizaines dans le reste du Brésil et à l'étranger, Europe, États-Unis ou Japon. César Tomasini, le directeur.
Ce centre, c'est une sorte de club qui tente de perpétuer les traditions gauchas de notre État. La culture gaucha, c'est un ensemble, musique, danse, gastronomie, costumes. Notre richesse venait pour l'essentiel du bétail. Les hommes étaient toujours à cheval, d'où notre pantalon rentré dans les bottes, nos chapeaux. Il y a aussi le churrasco, le barbecue traditionnel, c'est notre plat typique, considéré légalement comme le symbole des gauchos. Et puis une infusion, le chimarrão, qui est notre boisson principale.
Sur le plancher en bois transformé en piste de danse face aux trois musiciens, Béatrice, en robe verte longue jusqu'aux pieds, enchaîne consciencieusement les pas sous les conseils du professeur.
Oui, je suis une vraie gaucha, née et élevée ici. Là, on apprend les danses traditionnelles. Je connais un peu leur histoire, mais la pratique, rien du tout. Alors, je suis venue ici pour apprendre, et j'adore. C'est important, c'est de là qu'on vient. Ici, c'est quelque chose de très fort, à tel point que dans les stades, on chante l'hymne national, mais aussi l'hymne de notre terre, et tout le monde chante ensemble, même bien plus fort que l'hymne brésilien. C'est notre fierté d'être gaucho.
Avec ses multiples influences, Argentine, Uruguay, Espagne, Portugal, Italie, Allemagne, Pologne ou Afrique, la région de Porto Alegre représente à merveille la diversité du Brésil. C'est l'anti-cliché, explique même Luis Fernando Moraes, le secrétaire du tourisme.
L'État Grande do Sul, avec la Coupe du Monde, commence un peu à se tourner vers l'extérieur, alors qu'il était jusqu'à présent très recentré sur lui-même. Et ce que nous avons décidé de mettre en avant, c'est exactement ça. Regardez ici, c'est un Brésil différent. Ce n'est pas le Brésil des clichés, des plages, de la samba, de la forêt. Nous avons notre propre propre formation culturelle. Les gens sont différents, leur façon de faire, leur accent aussi. Ça a un bon côté, mais aussi un moins bon, parce que ce n'est pas forcément ce que les gens s'attendent à voir du Brésil. Mais en même temps, c'est bien de pouvoir offrir et présenter une culture locale bien distincte.
Et justement, pour le Mondial, Porto Alegre s'est lancé dans le tourisme créatif, directement inspiré d'Europe. En clair, inviter les touristes à faire leur propre barbecue churrasco ou le chimarrón, la boisson locale, ou encore à danser sur les musiques traditionnelles gaucha. Porto Alegre, Elodie Touchard, France Info.
Et le mondial brésilien n'est pas encore terminé, que la FIFA s'inquiète déjà des prochains, particulièrement de la Coupe du Monde 2022 confiée au Qatar. Son organisation fait polémique, tout comme son attribution. Entre autres interrogations, le climat, comment jouer dans la fournaise du golf, comment accueillir les spectateurs dans des conditions dignes. Les Qataris vont-ils pouvoir climatiser leurs équipements pour accueillir ce mondial? Pour le prouver, le comité organisateur teste en ce moment une fan zone, une zone pour les supporters climatisée en extérieur. À Doha, reportage pour France Info, Lax Milota.
Après les stades, le Qatar affirme qu'il peut climatiser les rues. Pour preuve, cette zone pour supporters à ciel ouvert, elle peut accueillir 1500 personnes. Les spectateurs regardent un match du mondial brésilien sur écran géant et sont surpris par la température, très agréable, alors qu'il fait chaud et humide à l'extérieur. Paulette est venue tester le système.
Il doit faire 20 degrés, je pense. Super, c'est vraiment super. On n'a vraiment pas l'impression d'être en extérieur.
Autour du public, quatre grandes colonnes soufflent de l'air frais. C'est l'un des prototypes testés par le Qatar en vue du mondial de 2022. Il faut que les supporters puissent se sentir comme au printemps à Londres, affirme Tamim El Abed. Il est directeur technique du projet de climatisation au sein du comité 2022.
Évidemment, nous n'allons pas construire un dôme au-dessus de Doha et climatiser toute la ville. Ça, c'est de la science-fiction. Mais notre but, c'est de faciliter le séjour des spectateurs qui viendront de France, d'Uruguay, d'Espagne et d'ailleurs. Nous voulons leur permettre de se réunir dehors.
De telles zones climatisées à ciel ouvert pourraient donc se multiplier à l'avenir au Qatar. L'ingénieur veut concevoir des espaces quatre fois plus grands. En ce qui concerne l'impact du système sur l'environnement, le concepteur ne donne pas de détails. Le comité pour 2022 assure que les projets seront améliorés ces 8 prochaines années. À Doha, Lax Milota pour France Info.
Des pluies torrentielles et des vagues de 14 mètres attendues. Le Japon en alerte maximale ce soir à l'approche d'un typhon annoncé comme particulièrement violent. Il devrait toucher l'extrême sud du pays, notamment l'île d'Okinawa. Plus d'1,2 million de personnes vivent dans cette zone. Les habitants sont invités à se réfugier dans les abris prévus dans ce genre de situation. Le ramadan se poursuit pour des millions de musulmans dans le monde. En Chine, la minorité ouïghour a beaucoup de mal à pratiquer normalement ce pilier de l'islam. Les autorités de Pékin font tout pour empêcher les musulmans au prétexte d'une opération antiterroriste qui vient de commencer dans cette région autonome du Xinjiang. À Pékin pour France Info, Philippe Reltien.
Les autorités ont l'habitude de dire à Pékin à propos des règles religieuses en vigueur au Xinjiang que rien n'est écrit. L'opération de police antiterroriste, prévue pour durer un an, se heurte à une tradition de ferveur religieuse normale en période de ramadan. La prière à la mosquée pour les fonctionnaires est permise quand la nuit tombe vers 21h30, pas pendant les heures de service. Le jeûne est déconseillé aux enseignants et aux étudiants. Un policier ouïghour, un guide ouïghour, un enseignant ouïghour devra ne pas jeûner, ne pas prier pendant ses heures de service. C'est écrit sur le site web de la préfecture d'Ili, en bordure du Kazakhstan. Les Ouïghours mènent depuis longtemps deux vies, une officielle avec les Chinois et une dans le cadre de leur communauté. Autre particularité, ils n'ont pas la même heure indiquée sur leur montre. Le décalage augmente avec le ramadan. Pékin, Philippe Reltien, France Info.
Et puis la disparition d'un des artisans de la fin de la guerre froide avec le leader soviétique Mikhail Gorbatchev. Édouard Chevardnadze, ex-président géorgien, est mort aujourd'hui à l'âge de 86 ans. Il avait démissionné de son poste de chef de la diplomatie soviétique fin 90 en mettant en garde contre un recours à la dictature.